Bonsoir, nous vous proposons aujourd'hui d'écouter Martin Pochon, jésuite, éducateur, membre de nombreuses associations, formateur au Centre d'études pédagogiques ignatien, qui intervenait le 2 juillet dernier dans l'église de Castanet-Tolozon, diocèse de Toulouse, où se déroulait la 8e édition de l'Université chrétienne de Castanet. Le thème de cette 8e édition, vivre ensemble, quel engagement pour aujourd'hui, et le sujet de la conférence de ce soir, la vie associative, lieu de révélation et d'intégration sociale des dynamismes.
Oui, voilà, j'ai choisi ce sujet pour la vie associative comme lieu de fraternité, mais plus particulièrement comme lieu de révélation et d'intégration des dynamismes personnels. Alors pourquoi avoir choisi ce sujet-là ? Eh bien, parce que j'ai souvent participé au long de mes pérégrinations de jésuites. J'ai participé à diverses associations et aussi à la création de telle ou telle association. J'ai été dans le monde éducatif et donc dans le monde éducatif, que ce soit quand il s'agit d'animation en quartier ou quand il s'agit d'une école, eh bien, il y a toujours une association. Et donc, il faut participer à cette vie associative. Et puis, j'ai constaté avec bonheur que, au fil de ces vies associatives, eh bien, se tissent des amitiés, des reconnaissances mutuelles qui traversent le temps et qui sont fort précieuses. Voilà. Donc, et ici, je suis à Toulouse depuis 2 ans et demi, ben, j'ai le plaisir ici aussi de participer à la vie de telle ou telle association. Il y en a une qui a déposé ses statuts il y a 2 mois, là, qui est l'Arège 31, accompagnée vers la réussite des parents et des jeunes, association d'accompagnement scolaire sur le quartier de Bagatelle. On a signé le bail pour un local la semaine dernière, donc vous voyez, c'est tout frais. Et puis aussi, certains connaissent, je participe, peut-être moins activement, mais à l'association JRS Welcome. Alors, JRS, c'est une association jésuite qui existe sur le plan international et notamment sur le plan français, et qui a une de ses activités, qui est une activité d'accueil de demandeurs d'asile, d'où le titre JRS Welcome, Jesuit Refugees Service Welcome. Voilà. Et il y a des antennes, alors ça existe sur Paris, mais ça existe aussi sur des villes de province. Et ici, depuis maintenant un peu plus de 6 mois, eh bien, on accueille tel ou tel demandeur d'asile. Les familles se relaient, je vous expliquerai ça peut-être si vous le souhaitez plus tard. Voilà, donc c'est par goût que je vous parle de la vie associative. Et puis parce que je trouve que c'est quelque chose à la fois très banal, la vie associative. Je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui font partie d'une association. Est-ce que je peux me permettre de demander à ceux qui font partie d'une association de lever la main ? Voilà. Alors, je demande à ceux qui n'en font pas partie une ou deux personnes n'en font pas partie. Voilà. Mais vous voyez, on fait surtout ici, évidemment, dans ce lieu, et il n'est pas étonnant que 80%, 90% des personnes fassent partie d'une association. Vous savez qu'il y a 43% des adultes français de plus de 18 ans qui font partie d'une au moins une association. Voilà. Alors c'est à la fois quelque chose de banal, de très banal, et en même temps je trouve qu'on risque d'oublier le côté merveilleux de ces associations, justement à cause de leur banalité ou de leur caractère très, très fréquent, quoi. Voilà. Peut-être une question subsidiaire. Il y en a combien qui sont présidents d'une association ? Voilà. Eh bien, vous êtes aussi, c'est assez révélateur, parce qu'il n'y a que des hommes. Et il y a effectivement, sur le plan statistique, une majorité d'hommes qui sont présidents d'associations. Voilà, je crois que c'est 63% des présidents sont des hommes. Voilà. Là-dessus, curieusement, il n'y a pas de parité. Alors je crois que la vie associative, elle est particulièrement précieuse dans une période où parfois les idéaux politiques ou même les utopies scientifiques, je ne sais pas comment il faut les appeler, sont plutôt en recul, quoi. Et pourtant, la grande majorité de nos concitoyens rêvent d'une société plus juste, mais ils ne trouvent pas toujours les dispositifs qui leur permettraient de mettre en œuvre concrètement leur désir d'une société plus juste. Entre les informations catastrophiques des grands médias et la réalité de la vie sociale locale, eh bien, les passerelles ne sont pas toujours évidentes. Et je crois que justement, les associations ont une fonction médiatrice et intégratrice importante. Et elles sont un lieu de sauvegarde de la démocratie, il me semble. Alors, je prendrai deux exemples qui me touchent. Bon, la France vient d'être frappée par un attentat terroriste qui nous laisse complètement démunis et qui représente un défi pour les services de sécurité. Eh bien, à travers ça, se pose la question de la religion musulmane qui est, se pose la question de l'islam. Et puis la question de l'intégration des musulmans de France. Alors face à des événements aussi dramatiques, eh bien, je crois que les associations peuvent nous aider à trouver des biais pour développer une connaissance mutuelle, pour développer des rencontres. Je pense par exemple au GAIC, le groupe d'amitié islamo-chrétienne qui se réunit régulièrement sur la paroisse Saint-Germain. Voilà, et qui organise aussi une fois par an telle ou telle rencontre où il y a 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, on est allé, mettons, à la Zaouïa de la Bastide Saint-Pierre à côté de Montauban pour participer à une prière avec des soufis. Alors évidemment, c'est un courant particulier, un courant mystique de l'islam, mais ça fait rien. Il y avait aussi des chiites qui étaient là, et ben ma foi, ce qui est très précieux, c'est que ils nous invitent aussi à vivre une réciprocité, c'est-à-dire que non seulement on a prié avec eux, mais eux souhaitent prier avec nous, ce qui est pas toujours le cas. Voilà. Alors ça permet comme ça, à travers la vie de cette association qui est le GAIC, eh bien de mieux connaître tel courant de sagesse qui est présent au sein de l'islam malgré tout, même s'il est très minoritaire. Et puis ça permet au fil des discussions et des échanges de mieux peut-être approcher les points de clivage entre ces courants et des groupes plus radicaux qui alimentent le terrorisme et qui nous font peur, quoi. En tout cas, je crois que des associations permettent d'établir des liens un peu officiels et puis d'établir des rencontres structurées. Et ça permet de sortir de l'imaginaire, de la peur et peut-être des amalgames, quoi. Bon, j'évoquais aussi le deuxième exemple que je prendrais, eh bien, c'est la question des migrants, dont, évidemment, qui font toujours la une des journaux depuis quelques mois, Et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, alors, heureusement, eh bien, il y a des associations qui permettent de mieux appréhender le problème et peut-être de rendre service, évidemment, que ce soit la CIMAD, qui agit beaucoup du côté des droits et des papiers, que ce soit le Secours catholique, ou l'association JRS Welcome, que j'ai évoquée il y a un instant. Et je crois que lorsque des citoyens font en sorte que l'intégration des migrants soit positive, en organisant un accueil, eh bien je crois que s'ils seront regroupés en association et qu'ils exercent aussi une fonction de plaidoyer, le terme anglo-saxon c'est l'advocacy, eh bien ils peuvent peut-être à moyen terme en tout cas influencer sur les politiques d'État pour que les États peut-être changent leurs règles de régularisation des nationalités, quoi. Parce qu'au fond, souvent, je crois que les États ne peuvent faire que les efforts que les citoyens sont prêts à faire, quoi. Alors certains groupes, évidemment, manifestent largement leur opposition à l'accueil d'immigrés, Mais justement, face à cela, il est important que des associations montrent que concrètement, il ne s'agit pas simplement de déclarations de bonnes intentions, montrent qu'il est possible d'accueillir. On peut noter, moi je voudrais noter aussi que si la Constitution, dans ce cadre-là des immigrés et des migrants, si la Constitution d'association permet de créer quelques interfaces, ben je constate aussi qu'il arrive que les migrants eux-mêmes se constituent en association et que ça permet d'établir quelques partenariats. Et je pense par exemple, puisque j'habite sur le quartier de Bagatelle, je pense par exemple à l'association Parlement 31, alors qu'il regroupe des migrants plutôt d'origine africaine, et qui se réunissent tous les jours sur le parvis de l'église du Saint-Esprit pour échanger. Le mot Parlement 31, vous voyez, évoque ce besoin de l'échange et de la discussion, pour boire aussi quelques bons coups, quoi. Voilà, bon, ça peut créer quelques petits problèmes de voisinage, voilà. Mais en même temps, parce qu'ils sont en association, eh bien, ça facilite grandement les contacts et les coopérations. Et récemment, ils ont encore organisé, pour la fête des mères, un repas avec la paroisse. Bon, alors à la mode africaine aussi, c'est-à-dire que le début du repas a plutôt commencé vers 15h, vous voyez, et puis c'est terminé vers 20h le soir. Mais voilà, le fait d'être en association permet d'avoir des partenaires, des vis-à-vis, des interlocuteurs et d'avancer. Et donc, je crois que à travers ces deux exemples, on voit bien que si on ne sait pas prendre un problème comme ça, globalement, on peut essayer de l'approcher par un aspect particulier. Et que ça, c'est l'approcher par un aspect particulier à travers une association particulière, eh bien, ça permet de s'ancrer dans le réel et puis d'en saisir un peu mieux la complexité, mais aussi en même temps d'éprouver le dynamisme qu'il y a à faire quelque chose et non pas de rentrer dans une rancœur ou dans des déclarations générales. Oui, je crois que la vie associative, de ce côté-là, eh bien, est quelque chose d'assez formidable, qui permet de tisser une société. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Je vous conseille pour montrer l'importance de la vie associative en France, hein, on vous trouverait facilement sur Internet un document qui a été fait par des personnes du CNRS qui s'intitule « Quelques repères sur les associations en France aujourd'hui » de Edith Archambault et Viviane Tchernonog qui sont du Centre d'économie de la Sorbonne. Voilà. Alors, je vous lis pas tout le papier, mais il est très intéressant, hein. Quelques chiffres simplement, parce que moi j'ai été surpris par le volume que ça représente. 46% des Français âgés de plus de 18 ans adhèrent à une association, soit 23 millions d'adhérents. Voilà. 32% des Français exercent une activité bénévole, soit 16 millions de bénévoles. Quand on dit le bénévolat se perd, vous savez, c'est difficile de trouver des bénévoles, bon. Là, les chiffres, quand même, sont parlants, hein. Et puis, il y a 1 800 000 personnes qui exercent une activité salariée dans les associations, à temps plein ou à temps partiel. Ce qui veut dire que l'emploi salarié dans les associations représente 6% du volume de l'emploi privé et près de 5% du volume total de l'emploi public et privé dans le pays. Donc c'est pas négligeable du tout, hein. Et le secteur associatif réalise un budget cumulé de l'ordre de 70 milliards d'euros. Sa contribution au PIB est de l'ordre de 3,5%. Donc des chiffres qui sont, je trouve, moi, assez impressionnants. Sachant qu'on peut noter qu'il y a 65 000 créations d'associations chaque année. 65 000 créations d'associations chaque année. Mais ce qui veut dire que le solde de croissance est quand même de environ, on a toujours un peu de mal, hein, parce que les gens ne suppriment pas toujours officiellement les associations, mais on peut l'estimer, en tout cas d'après ces chercheurs, que le taux d'accroissement est de 37 000 associations chaque année. Ce qui veut dire un rythme de 4%, un rythme de croissance de 4%, qui pose tout de suite un petit problème, c'est-à-dire que c'est un taux de croissance qui est supérieur aux revenus financiers global de ces associations. Donc il y a un peu une compression manifeste. Voilà. Donc voilà, je vous encourage à aller voir sur Internet, vous verrez, c'est très, très intéressant. Alors, moi, mon propos aujourd'hui est plutôt limité, hein, c'est d'essayer de parler de la vie associative comme lieu d'intégration et de révélation des dynamismes personnels, des charismes personnels, on va dire, voilà. Alors, au point de départ, qu'est-ce qu'il y a? Il y a au départ la volonté d'individus, de personnes, qui souhaitent inscrire ou mettre en œuvre leur dynamisme personnel. Déjà ça. Alors un peu, on pourrait parler du principe du colibri, cher à Pierre Rabhi. Hein, vous connaissez toute la métaphore, non, du colibri, qui, alors qu'il y a un incendie, va au marigot, prend une goutte d'eau, puis ramène sa petite goutte d'eau sur l'incendie là. Et l'autre lui dit, mais attends, il croise, je sais plus si c'est le guépard ou lequel, qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça sert à rien. Il dit, oui, mais moi, je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Et si tout le monde faisait ce qu'il avait à faire, ça, peut-être que ça changerait. Alors, je crois que justement, commencer par faire ce que l'on peut faire et ce que l'on a à faire, eh bien, ça permet de sortir de l'amertume. Moi, je dirais ça un peu comme ça. Parce que parfois, face à la société, à ce qui ne va pas dans la société, on peut vivre un sentiment d'amertume, d'aigreur sociale, quoi. Et ça permet de sortir de la trilogie, vous savez, du yaka, il suffit, faucon, voilà. Et en faisant ce qu'on a à faire, eh bien, parfois, on change. Enfin, personnellement, j'en ai fait l'expérience, on change sa façon de voir les choses. Car dans l'action, on découvre que tel paramètre, telle manière de s'investir est riche de valeur, de dynamisme, alors qu'on ne l'avait pas vu sur le plan théorique, vous voyez. Et donc, en s'impliquant soi-même, on peut changer, au fond, on peut devenir optimiste si on était négatif, si on était pessimiste même, ouais. Et puis, ma foi, on découvre que ça peut être passionnant de faire quelque chose avec d'autres. Parce qu'on s'aperçoit que le colibri, ben, il n'est pas bon qu'il soit tout seul. Et puis que généralement, il y a d'autres colibris. Voilà. Et dès qu'il y a trois colibris, ben, il y a une association. Hein. C'est sûr que, vous voyez, s'il y a 67 000 associations qui se créent chaque année, ben, vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup de colibris quand même. Hein. Voilà. Et je crois que dès qu'il y a une association, eh bien à ce moment-là, il y a une autre dimension qui intervient, c'est-à-dire qu'il y a, une action qui se coordonne avec celle des autres, il y a une créativité. Au fond, il se peut qu'au départ, on y reviendra, il y a toujours une idée, plus ou moins lumineuse, mais ensuite, dès qu'on est plusieurs à adhérer à cet objectif ou à cette idée, eh bien, c'est comme la lumière, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de diffraction. C'est-à-dire que s'il y a trois colibris, ben, il y en a un qui sera plutôt du côté du rouge, un autre plutôt du bleu et un autre du côté du vert, quoi, vous voyez. Donc, il y a une diffraction qui fait que tout de suite, il va y avoir une diversité de compétences et une créativité qui va pouvoir s'exercer. Et puis, toujours en essayant de tourner autour de cette question-là du colibri, eh bien, quand on s'engage dans quelque chose, il me semble qu'on peut même se demander, au bout d'un certain temps, si c'est pas une chance que les problèmes ne se résolvent pas par grandes décisions générales extérieures à nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que pour que la société tourne et fonctionne, il faut que chacun prenne sa part. Autrement dit, que chacun est essentiel. Et que, voilà. Et ça, finalement, c'est peut-être une raison d'être optimiste. C'est-à-dire que les choses ne peuvent pas advenir sans nous, hein, si on le prend du bon côté. Voilà. Les choses ne peuvent pas advenir sans nous. Autrement dit, chacun est essentiel. Et je crois que ça a peut-être quelque chose à voir. Alors évidemment, moi je vais vous développer des accents qui sont assez religieux et chrétiens. Hein. Je suis jésuite, donc vous m'excuserez, mais voilà. Bon. Et, nul n'est parfait, voilà. Mais je crois que ça a quelque chose à voir avec le royaume, hein, qui se développe comme la graine de Senvé, là, c'est-à-dire, si on regarde, on voit rien qui se passe, mais si on revient le lendemain matin, il y a déjà eu une petite transformation, quoi. Et puis, si on laisse pousser, bien sûr, sur les années, au bout du compte, après un certain nombre d'années, ça finit par devenir un arbre, où les oiseaux peuvent faire leur nid. Donc, voilà, et ça tient au fait que le royaume ne peut grandir que si chacun adhère librement. Voilà, c'est pas un diktat extérieur, ça suppose que chacun adhère librement. Toujours sur la question des immigrés, on se dit, moi je me suis souvent dit, parce que dans mon parcours, j'ai souvent fait de l'animation où j'ai tenu des établissements scolaires, où j'avais la responsabilité d'établissements scolaires qui accueillaient pas mal de jeunes issus de l'immigration, quoi. Et je voyais bien qu'il était très rare que leurs parents aient pu être accueillis par des familles françaises et franchir le seuil d'une famille française, quoi. Étonnant, mais c'est comme ça, quoi. Donc, on se dit que si jamais il y a une famille française d'origine, une famille gauloise sur 10, qui accueille et qui tisse des liens d'amitié avec une famille immigrée, moi je me dis que la question de l'intégration des familles immigrées serait en grande partie en voie de résolution, disons, hein. Alors qu'actuellement, c'est pas tout à fait la voie de résolution que l'on voit. Voilà. Donc voilà, il y a l'effet colibri, mais par l'association, par le phénomène de l'association, le phénomène du colibri devient tout autre chose, je crois, hein. C'est-à-dire qu'il y a un collectif, qu'il y a un dynamisme collectif avec une place qui peut se faire peu à peu pour chacun des membres de l'association. Alors les associations, je trouve que, et c'est souligné l'article que j'évoquais tout à l'heure, quoi, elles ont une valeur démocratique essentielle, quoi. Parce que justement, elles permettent aux citoyens de s'exprimer et puis d'agir, non seulement de s'exprimer lors d'un vote, mais d'agir concrètement et de prendre leur place dans la société. Et puis ensuite, à plusieurs, de faire entendre leur voix auprès des collectivités territoriales, auprès de différentes instances, selon la nature de leur association, quoi. Et il y a une dimension sociale déjà, de société, on va dire. C'est une valeur démocratique parce que ça permet à chacun de parler, mais c'est il y a déjà la constitution d'un mini tissu de société, quoi. Parce qu'une association, d'après les règles françaises, eh bien pour faire une association, il faut au moins 3 personnes. Il faut un président, un secrétaire, un trésorier. Vous connaissez ça. Et alors, on cherche toujours. Alors, qui veut être président, qui veut être trésorier, qui veut être secrétaire, voilà. Mais avec 3 personnes, vous avez déjà, d'emblée, vous avez déjà une mini-société. Et ça, elle est définie par son côté statutaire, quoi. Et dans ce collectif qui se crée, il y a une organisation déjà qui est imposée, on va dire, par la loi, pour qu'elle puisse être déclarée en préfecture, hein. Et il y a déjà, au fond, une petite démocratie qui s'exerce. C'est-à-dire que chacun est à part égale avec les autres, et puis élit telle ou telle personne qui va exercer telle fonction dans l'association, ou qui va représenter l'association vis-à-vis de l'extérieur, ou que sais-je, quoi. Parce qu'il y a il y en a 3 minimum, mais ensuite il peut y avoir un vice-président, il peut y avoir un vice-secrétaire, il peut y avoir 36 fonctions, quoi, hein. Donc finalement, une association, c'est une petite société qui permet d'intégrer la société civile qui est plus large, hein, et qui peut être reconnu comme tel. Le fait d'être déclaré en préfecture, eh bien, il y a un titre de l'association, il y a un nom de l'association, donc c'est une personne morale, mais bon, c'est une personne, donc elle peut être reconnue, et puis elle a un objet éventuellement social. Voilà, donc on a la constitution déjà d'un échelon intermédiaire de la vie en société, à mon avis. Puis d'autre part, on peut noter que dans les associations, il y a un principe de libre adhésion. Alors ça, je trouve ça aussi très intéressant. C'est-à-dire que la plupart des associations, quoi, n'adhèrent que ceux qui veulent. C'est tout bête. Mais ça veut dire qu'au fond, les associations ne fonctionnent que parce que chacun le veut bien. Et puis on n'est pas obligé. Bon, changer de nationalité, c'est un peu difficile. Hein, enfin, bon. Mais par contre, arrêter d'être membre de telle association, ça se fait sans souci. De même, adhérer à telle association, ça se fait assez facilement. Il y a parfois une cooptation qui est nécessaire, mais ça se fait assez facilement. Mais en tout cas, je trouve que la dimension de volontariat et de liberté est quand même très, très importante. Ne viennent que ceux qui sont intéressés par le projet proposé. Alors déjà ça aussi, ça veut dire qu'il y a une conjugaison des volontés autour d'un but commun. Bon, avec la diversité, hein. Alors ça peut être la défense du colibri, mais ça peut être des choses beaucoup plus, il n'y a peut-être pas de degré d'importance, mais enfin voilà, des choses qui touchent peut-être davantage les personnes comme telles immédiatement. Alors cette libre adhésion fait que les associations elles invitent les autres, et qu'elles, du coup, elles peuvent réveiller le désir des personnes rencontrées, qui se disent, ah ben oui, tiens, il y a un tel qui m'a dit, qui me propose de faire partie de telle association, et la personne peut, réfléchissant, peut se dire, oui, ça c'est intéressant, et du coup, ce qu'elle porte en elle comme attente, comme potentialité, eh bien, va pouvoir s'exprimer, va pouvoir rejoindre un collectif et une vie avec sa dimension sociale qui existe de manière structurée avec d'autres. Alors, la libre adhésion, eh ben, je crois que ça fait partie des richesses de la vie associative, et notamment dans les associations à but non lucratif, où là, associé à la liberté, il y a aussi la gratuité. Hein ? On se plaint toujours dans nos sociétés que c'est le grand capital qui décide et que c'est les fonds de pension de je ne sais pas d'où qui décident de la vie d'une entreprise, et que certains employés peuvent parfois se demander s'ils travaillent pour un client auprès desquels ils assurent un certain nombre de prestations, ou s'ils ne prennent le client que comme prétexte pour servir un fonds de pension qui se trouve ils savent pas où et dont ils n'ont jamais vu les propriétaires, enfin, ou les actionnaires directs, quoi. Donc là, on a un principe un but non lucratif, même s'il y a des salaires et des employés, hein, mais le but n'est pas de rémunérer un capital. Le but, c'est d'assurer une tâche précise dans la société, que ce soit sur le plan éducatif, que ce soit sur le plan, je ne sais pas, des personnes handicapées, que ce soit, enfin, une multitude d'objets, hein, que ce soit la musique, je ne sais pas, les chorales, que sais-je, il y a de tout. Voilà. Et du coup, c'est chaque association peut aussi être une invitation libre à rejoindre un réseau, parfois un réseau d'associations. Bon, le père Bernard Devers, là, qui va être là, bon, ben, on voit bien que l'association Habitat Humanisme est quelque chose qui peu à peu a grossi de manière importante. Au départ, c'était très régional, du côté de Lyon, quoi. Région Rhône-Alpes. Et puis, ben, ça s'est étendu à l'ensemble de la France, quoi. Où vous prenez les communautés de l'Arche de Jean Vanier, hein. Ça a démarré petitement parce que quelqu'un a décidé de faire communauté avec deux personnes qui étaient dans un asile au Canada. Hein. Et 50 ans plus tard, eh ben, il y a 147 communautés réparties dans 37 pays. Donc il y a ce côté de liberté et de créativité fait que ben, des personnes adhèrent librement et puis elles-mêmes apportent leur dynamisme dans notre société, quoi. Oui, du coup, moi, en voyant ces exemples-là, ben, je me dis que ça a bien quelque chose à voir avec la parabole du royaume. Alors, évidemment, à chaque fois, il s'agit de faire société à partir d'un sens commun pour inscrire quelque chose dans la société, dans un collectif. Et, ma foi, pour l'inscrire dans la société, eh bien, il faut déjà un certain nombre de compétences. On s'en aperçoit très très vite, hein. Moi, je prends, mettons, là, on a eu cette semaine le premier conseil d'administration de Arpège 31. L'association avait été déclarée en préfecture un mois avant. Bon, eh bien là, s'il faut louer un local, eh bien, il faut avant, de toute façon, qu'il y ait eu tous les contacts avec la municipalité, avec les assistants, les personnes des allocations familiales. Enfin, vous voyez, plein de contacts préalables. Bon, eh bien, il y en a qui sont plus ou moins doués pour ces contacts. Hein? Et puis, il faut des gens qui ont un sens pratique. Parce que il faut qu'ils sachent s'il y a un bail à signer, il faut qu'ils sachent lire un bail, il faut, vous voyez. Donc il faut encore des personnes qui aient peut-être une autre compétence. Et puis il y en a qui doivent avoir un peu de gingin pour savoir solliciter les fondations ou que sais-je, vous voyez. Ben ça c'est encore une autre compétence. Et puis il faut quelqu'un qui, si le but de l'association, il faut quand même pas l'oublier, c'est d'aider des jeunes en échec ou en difficulté scolaire. Bon, faut des gens qui aient un gingin pédagogique, vous voyez. Donc et à chaque fois pour un truc tout simple, eh ben on s'aperçoit qu'il faut une multitude de compétences et qui soient coordonnées et qui finalement œuvrent autour de la même idée, vous voyez. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'au fond, quelqu'un qui n'est pas un pédagogue peut très bien participer à une association dont la finalité est d'aider des jeunes en difficulté scolaire. Pourquoi ? Parce que ça, il peut très bien le percevoir, que c'est important de les aider, même si lui, il sait pas faire, mais par contre, il va apporter sa compétence pour trouver des sous, quoi, par exemple. Bon, alors autrement dit, ce qu'il y a de précieux dans une vie associative, c'est que des dynamismes très divers, peuvent se coordonner pour un objectif commun, et perceptible par tous et transmissible, quoi. Voilà. Alors vous voyez, le fait que je trouve que c'est, je disais tout à l'heure que ça a quelque chose à voir avec le royaume. Bon, je crois que le fait qu'il faille au moins trois personnes, ben je trouve que c'est aussi un symbolisme intéressant. Hein, trois, c'est le minimum symbolique. Mais je trouve que ça montre bien que pour avoir une existence social public, il faut être plusieurs, quoi. Hein? Il n'est pas bon que le colibri soit tout seul. Mais vous voyez que en fait, forcément, le colibri, il est un être relationnel, quoi. Hein? Et donc, pour mettre en œuvre une visée commune, il faut forcément une diversité de personnes. Alors, je crois que ça rejoint. Pour moi, bon, parce que je me suis un peu intéressé au premier chapitre de la Genèse, comme beaucoup, hein, je crois que ça rejoint une anthropologie chrétienne assez claire, quoi. C'est-à-dire, vous avez le chapitre 1, tout le chapitre 1 de la Genèse, du livre de la Genèse, ben c'est un éloge en quelque sorte de la différenciation, hein, et de la distinction des choses. On sépare la lumière des ténèbres, ensuite on sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, on sépare le mouillé et le sec, la mer et les continents, on sépare les différentes espèces de végétaux, vous voyez. Et puis après, ma foi, on sépare les luminaires. Bon, c'est pas dans l'ordre là qui est adopté, est un peu curieux, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Le but est de montrer que dans les trois premiers jours, on décrit tout ce qui bouge pas et qu'ensuite on décrit tout ce qui bouge. Il y a une différenciation là encore entre ce qui bouge et ce qui bouge pas. Donc on va faire venir le soleil après les légumes. Bon, ce qui est pas tout à fait logique. Mais donc on différencie les luminaires pour le jour, pour la nuit, puis ensuite tous les animaux, puis ensuite, Dieu crée l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, c'est-à-dire comme enfant, hein, c'est ça que ça veut dire. Quand Adam eut 130 ans, il enfanta un fils, Seth, à son image, à sa ressemblance. C'est le même auteur, on sait ce que ça veut dire. Donc l'idée, le projet de Dieu, c'est de créer des enfants à son image, c'est-à-dire différenciés. Et vous savez que les pères de l'Église ont dit que ça, c'était déjà un peu une esquisse. Dire ça, c'était esquisser déjà un petit peu la conception de la Trinité, c'est-à-dire Dieu comme union de personnes. Le divin du côté de la communion des personnes. Ben ça, moi je pense que si on fait l'expérience heureuse de la communion des personnes, on voit bien que c'est divin ça. Hein? Et que l'inverse est plutôt l'enfer, quoi. Bon, voilà. Bon, alors le chapitre 1 nous fait l'éloge de la différenciation. Et le chapitre 2, il nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il insiste un peu. Alors, c'est pas le même auteur, c'est pas le même genre littéraire, mais il revient là-dessus, quoi. Hein. Et il nous dit que, en plus, le chapitre 2, il nous dit que une personne seule, elle est forcément limitée dans son action. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Tu peux manger tous les champignons, mais celui qui est rouge à points blancs, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous voyez que l'être seul, il est face à une limite. À une limite. Alors la question, c'est le chapitre 3, c'est-à-dire, si tu es limité, ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu lui ressembles. Ça, c'est le serpent. Hein, vous savez. Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. C'est qu'il se garde le meilleur pour lui et qu'il se garde ses privilèges et qu'il pas du tout, vous mourrez pas, etc. Vous voyez. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, il y a une interprétation de la limite qui est négative. Et ça sera précisément tout l'enjeu de la révélation et bien sûr de Jésus, de nous montrer que la limite, nos limites. Loin d'être ce qui nous différencie de Dieu, eh bien, c'est le marchepied de notre divinisation. Vous connaissez les tentations de Jésus au désert. Si tu es fils de Dieu, tu fais tout et n'importe quoi, tu transformes les pierres en pain. Et le Christ dit non. L'homme ne vit pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que il va dire qu'être fils, c'est se recevoir pour mieux se donner. C'est-à-dire que là, il va nous définir la limite comme ce qui ouvre aux autres. Ça, c'est évident hein, sur le plan psychanalytique. C'est-à-dire parce qu'on n'est pas tout, on est obligé de reconnaître les autres. Et si on apprend à reconnaître les autres, à ce moment-là, on apprend à aimer. Et si on apprend à aimer, on peut apprendre à aimer comme Dieu aime, et donc on peut entrer dans l'ordre du divin. Vous voyez ? Donc, finalement... La limite, on peut l'interpréter comme quelque chose de négatif, mais si on vit dans une bonne association, on s'aperçoit que la différenciation et la limite que l'on peut avoir soi-même, eh bien c'est une grande chance, parce qu'à ce moment-là, on compte sur les autres, et on est amené à les reconnaître comme indispensables, et ayant une qualité que l'on n'a pas, mais qu'il nous apporte et qui fait qu'ensemble, eh bien, à ce moment-là, il y a quelque chose de plus grand qui peut se vivre, et puis il peut y avoir une estime mutuelle, et donc une reconnaissance mutuelle, et donc aussi un dynamisme bien plus fort. Et qui fait qu'il y a toujours un acte de foi vis-à-vis de, d'autres qui ne sont pas dans l'association. Il y a déjà un acte de foi qui est vécu à l'intérieur des membres de l'association, mais il y a aussi du coup un acte de foi qui peut être vécu vis-à-vis des interlocuteurs extérieurs. Parce qu'au fond, c'est la même attitude. C'est une question d'attitude et on ne change pas d'attitude comme ça, interne, externe. C'est l'homme qui est là. Donc on peut découvrir que, au fond, la vie associative est le lieu. Excusez-moi. Est le lieu où peuvent se conjuguer les talents de chacun, les talents singuliers, les capacités singulières de chacun, et que ça, c'est une grande chance. Bon, moi, à travers le... quand je me suis occupé de l'établissement scolaire, le système associatif marchait très bien. C'est-à-dire que le conseil d'administration n'était pas simplement une chambre d'enregistrement, mais c'est dans le conseil d'administration, chacun avait sa place. Mais je peux vous dire qu'à travers cette vie associative, eh bien, j'ai tissé de belles amitiés. Même si j'ai changé de ville et tout, les amis restent les amis. À travers ça, quoi. Notamment parfois le tandem directeur salarié, président, bénévole, eh bien c'est quelque chose de très précieux, quoi. Voilà, je crois que ça rejoint quelque chose d'important, hein, ça. Sur le plan structurel, c'est vrai que moi je mets carrément, je vais jusqu'à dire que le divin est de ce côté-là, quoi. Ouais. Dans la reconnaissance des compétences particulières, des différences. Et j'aime bien du coup la théologie de Moltmann, je ne sais pas si vous connaissez cet autre théologien allemand, ce qui parle de trinité ouverte. Vous voyez, c'est une, je trouve, un beau concept. C'est-à-dire que Père, Fils, oui, d'accord, mais dans l'esprit... Cette communion, elle est ouverte à chacun de nous. Quand le Christ ressuscité dit à Marie-Madeleine, va trouver mes frères, eh ben c'est ses frères, hein, et ses sœurs, enfin voilà. Donc il y a, Dieu n'est pas... Tout le discours de Saint Jean, ce qu'on appelle le discours sacerdotal, on voit bien qu'il y a une espèce de transitivité entre le Père, le Fils, les disciples, et puis tout homme qui est appelé à intégrer cette manière de vivre et de croire, quoi, hein. Donc voilà, on est appelé à... Et alors, évidemment, une vie associative, c'est pas immédiatement le royaume de Dieu, hein, enfin, bon, par ailleurs, parfois les bonnes volontés, enfin, peuvent l'enfer, bon, mais quand même, justement, il y a des espèces de prémices qui peuvent être vécues là-dedans. Alors, dans la vie associative, on peut en faire l'expérience, comme on peut en faire l'expérience aussi dans la vie familiale ou dans la vie communautaire si on est religieux. Moi, je suis assez frappé de voir qu'est-ce qui conditionne la fraternité. Vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'on peut reconnaître l'autre comme frère. Ben, je suis toujours frappé de voir que on ne vit bien avec ses frères et sœurs que si on apprend à reconnaître la manière, à reconnaître en eux ce qui fait leur vocation propre. Alors, qu'est-ce que j'appelle leur vocation propre? C'est-à-dire ce dans quoi la manière dont ils reçoivent sa vie et la façon dont ils sont heureux de vivre, en quelque sorte. Parce qu'il me semble qu'une vocation se traduit par le fait que quelqu'un se sent appelé à faire quelque chose, s'investit dans cette chose-là, et que si c'est sa vocation, c'est aussi ce qui lui donne un dynamisme, lui donne une joie intérieure. Comme critère de discernement, c'est quand même pas si mauvais, ça. Hein, la joie, le dynamisme, l'allégresse, l'ouverture aux autres, l'intelligence, c'est du côté des dons de l'esprit, ça. Hein, dans Galates. Donc il y a entendre ce qui fait la vocation de l'autre, et on constate, c'est ça qui est très étonnant, que ce qui fait la vocation de l'autre, quand on arrive à l'entendre, eh bien c'est quelque chose de beau. Et curieusement, c'est pas notre vocation. C'est ça qui est étonnant, quoi. C'est-à-dire que on voit des personnes qui ont du talent et du goût pour s'investir de telle manière dans la société et autres. Et nous, on ne saurait pas faire. Et puis, on ne se sent pas forcément attiré. Mais si c'est du côté de leur vocation propre, il me semble qu'on voit que c'est beau. Et à ce moment-là, vous voyez, si on a perçu ça et qui fait la beauté de la personne et ce qui fait son dynamisme, à ce moment-là, il y a des travers ou des petites choses de la vie quotidienne qui parfois nous empoisonnent bêtement. Une façon de ranger la vaisselle qui n'est pas la bonne, laisser traîner les journaux, j'en sais rien. Dans la vie quotidienne, il y a 36 manières. Parfois, on peut être énervé par des tas de petits détails qui peuvent prendre un volume, parfois on ne sait pas bien pourquoi, qui est gigantesque, ça devient une montagne. Hein. Mais si on entend ce qui fait la vocation de l'autre, à ce moment-là, c'est remis à sa place, à sa juste place. Je pense à un compagnon qui est très généreux, qui lavait la vaisselle le soir toujours, mais quand au petit matin vous la rangiez, il restait juste, l'eau s'était évaporée, il restait la graisse, vous voyez, là. Et donc il fallait refaire la vaisselle, quoi. Bon. Si vous percevez ce qui fait sa vocation, c'est pas grave. Vous refaites un peu de vaisselle et puis voilà, parce que vous dites, lui, il sait faire des choses que je ne sais pas faire et c'est beau et heureusement qu'il est là, quoi. Voilà. Bon, je crois que, vous voyez, on découvre du coup qu'est-ce que c'est que vivre une communion dans une différenciation. Je crois que la vie associative, modestement, parce qu'on n'engage pas dans la vie associative, on n'engage pas toute sa personne, c'est peut-être limité, c'est un aspect, quoi. Enfin, c'est tant d'heures par semaine, éventuellement, quoi. Mais quand ça fait rien, et je crois qu'on apprend quand même un petit peu à vivre avec les autres et à être heureux de la différenciation et des talents des uns et des autres. Bon, évidemment, ça peut être le lieu de tentation, hein. Il peut y avoir le serpent là qui se balade là, vous voyez. Bon, avec parfois des volontés de puissance qui peuvent s'exercer. On voit ça dans les associations, ça peut arriver. Voilà. Bon, l'avantage des associations, c'est que c'est un principe d'union libre. C'est que si ça ne va pas, ma foi, soit on peut partir, soit on peut travailler pour que ça soit corrigé. D'abord, avant toute chose, peut-être, il faut souligner ça. Et puis deuxièmement, s'il n'y a pas de choses qui évoluent, on constate souvent que ces associations disparaissent. Quand elles sont l'affaire d'une personne, le jour où la personne disparaît, c'est fini. Voilà. Vous voyez, c'est qu'en fait, la structure associative n'a pas joué son rôle ou n'a pas été respectée ou elle a été récupérée au profit d'une volonté de puissance, quoi. Donc à ce moment-là, voilà. Mais j'allais dire, du coup, ça fait une sélection naturelle. Il reste celles qui sont en bonne santé, voilà. Alors pour pouvoir repérer justement les dynamismes propres et singuliers de chacun, je crois que c'est intéressant de prendre un petit peu de temps pour relire un peu ce qui se passe, pour apprécier la façon dont chacun s'investit, pour pouvoir aussi évaluer la vie de l'association et de voir si elle tient ses objectifs et tout ça, quoi. Donc, ça suppose de prendre un petit peu de recul, de faire des bilans et de prendre le temps aussi, peut-être, de prier avec les différents visages qui constituent une association, quoi, pour les porter et puis les reconnaître. Voilà. Oui, je crois que c'est dans cette reconnaissance des différences et de leur côté essentiel, c'est dans cette reconnaissance-là que finalement on lutte contre le péché originel. Oui. Bon. Parce que le péché originel, c'est justement croire que si on ne peut pas tout faire soi-même, eh bien c'est que Dieu est méchant, vous voyez. Alors qu'en fait, non, c'est le marchepied de notre divinisation. Alors je crois que cette dynamique-là, alors sur le plan religieux, sur le plan anthropologique chrétienne, c'est assez clair, quoi, hein, il me semble. Donc, bon, le temps ayant passé, eh bien, je crois hein, que... alors, j'ai plutôt présenté les côtés positifs de la vie associative, hein, c'est clair. Hein. Mais justement, il ne faut pas les oublier, parce que c'est ça qui en fait le charme. Hein. Et c'est là-dessus qu'il faut miser. Je crois que les associations permettent, presque par nécessité, aux différents talents de se conjuguer pour un service de la société, quoi. Voilà.
Nous venons d'écouter une conférence donnée par le jésuite Martin Pochon. Sur le thème de vivre ensemble, quel engagement pour aujourd'hui, il intervenait dans le cadre de la 8e édition de l'Université chrétienne d'été de Castanet.